bienvenue dans votre magazine de l'environnement, un magazine aujourd'hui consacré à une nouvelle source d'énergie prometteuse, le charbon vert.
Ce charbon vert, c'est un charbon qui n'est pas issu de la déforestation. Ils sont sceptiques parce qu'ils se demandent est-ce que ce charbon-là, est-ce qu'il n'en émane pas des gaz qui peuvent nuire à la santé des utilisateurs. Je pense qu'il faut tenir en compte tout cela et essayer d'aider ce charbon-là pour qu'il fasse son petit chemin, quoi.
Comment lutter contre la déforestation? Comment fournir une alternative au bois ou au charbon pour de nombreux pays très dépendants de leurs forêts? Et comment, du même coup, participer à la lutte contre le réchauffement climatique en fixant le carbone et en devenant un véritable acteur de ce marché? La solution énergétique qui répond à toutes ces questions et qui est déjà en développement en Afrique porte un nom, c'est le charbon vert, une nouvelle source d'énergie à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Les abeilles qui sont dans nos villes produisent plus de miel que dans nos campagnes et la mortalité de ces abeilles est deux fois plus faible que celle dans nos campagnes. Donc ça veut dire que, paradoxalement, dans certains pays comme le nôtre, le travail le plus important à faire est de baisser la pollution de nos campagnes.
Et on commence cette première partie avec vous, Laurent Mermet, bonjour.
Bonjour.
Pour commenter l'actualité environnementale du jour, alors vous êtes professeur à AgroParisTech et plus précisément chercheur à l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts. Alors vous travaillez sur les questions liées à la gestion environnementale et vous venez de publier avec la sociologue de l'INRA, Martine Berland-Arquet, un ouvrage chez l'Harmattan intitulé « Environnement, décider autrement ». C'est un livre qui propose des pistes de réflexion sur le thème concertation, décision, environnement.
Alors c'est surtout un livre qui est le résultat d'un programme de recherche qui a impliqué une trentaine d'équipes de recherche, programme de recherche qui a été financé et animé par le ministère de l'Environnement. Et donc c'est 50, 80, 100 chercheurs qui ont travaillé pendant 5 ans sur cette question et c'est de ces travaux-là qu'est tiré le livre. C'est un ouvrage collectif qui essaye de donner parmi les meilleurs résultats de ce programme de recherche.
Bon, ben on en reparlera tout à l'heure, mais tout d'abord pour commenter l'information, il y a cette actualité, Arnaud, cette annonce du programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'OMS qui ont donc décidé d'éliminer le DDT d'ici à 2020.
Oui, car le DDT, qui est un puissant pesticide dont l'usage a été interdit à cause de sa forte toxicité, continue d'être utilisé par de nombreux pays pour combattre les moustiques. D'un côté, on a des pays qui continuent à utiliser et à répandre du DDT pour lutter principalement contre les moustiques qui véhiculent le paludisme, une maladie qui fait, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 880 000 morts par an. Et de l'autre, il y a une convention de l'ONU de 2001 qui interdit l'usage du dichlorodiphényltrichloroéthane, c'est-à-dire le DDT, qui est un produit donc extrêmement toxique pour tous les êtres vivants. Et donc, pour supprimer définitivement ce produit auprès des pays qui continuent à y avoir recours, un plan vient d'être mis en place pour réduire son usage progressivement et obtenir donc sa suppression complète en 2020. Une information qui est intéressante parce que on s'aperçoit que quand finalement on passe la fin du DDT, ça marque aussi un petit peu la fin d'une époque où finalement on avait recours à tous ces...
Alors c'est une information qui a d'abord une grande portée symbolique parce que le livre qui est le symbole du démarrage du mouvement environnemental, c'est Le Printemps Silencieux de Rachel Carson, 1961, et c'est un livre qui était centré sur le DDT. En expliquant tous les dégâts que le DDT pouvait faire à l'environnement. Et le DDT, de ce point de vue-là, était le symbole du produit le plus toxique. En écoutant cette actualité, moi je découvre que le DDT était encore utilisé, parce que la page a été tournée dans les pays du Nord depuis une trentaine d'années, je ne me rappelle plus la date. Et donc, la deuxième intérêt de cette information, c'est qu'on voit l'extrême lenteur de réaction sur les dossiers environnement. Le dossier du DDT est clair et net quant à la gravité de ces conséquences environnementales en 1961 et tout le monde en est informé.
On envisage 2020
pour être arrivé au bout de ce dossier, c'est assez vertigineux.
Il a fallu 60 ans pour interdire l'amiante. Hein.
Tout à fait.
Alors une histoire brésilienne cette fois, c'est Gabriel qui vit de la pêche artisanale depuis plus de 20 ans. Et bien il part pêcher dans la Penério mais sans filet parce qu'il ne va pas attraper des poissons mais retirer de ses propres mains des tonnes d'ordures qui polluent ce décor de rêve au pied du célèbre peintre sucre. Et alors il raconte, on attrape de plus en plus de détritus dans nos filets et parfois ils se prennent dans les hélices des bateaux et les cassent. Alors Gabriel fait partie du projet Baia Limpa, ça veut dire baie propre, qui a été mis sur pied au début de l'année par la Fédération des pêcheurs de l'État de Rio de Janeiro pour améliorer les conditions de vie des 20 000 pêcheurs de la région qui disent avoir de plus en plus de mal à vivre de la pêche artisanale, notamment à cause des ordures. C'est une histoire qui rompt un peu le charme de la baie de Rio quand même.
Oui, c'est clair, on la voit pas sous cet angle-là. Moi, ce que je vois d'intéressant dans cette... là encore, ça renvoie à des choses presque à mon enfance, quand j'étais adolescent. C'était le début de la montée de l'environnement et des mouvements environnementaux. Et les grandes actions, c'était le nettoyage. On allait ramasser des déchets dans les forêts, etc., etc. Et je pense que un des débuts de la prise de conscience, hein, de l'environnement et du passage à l'action, c'est effectivement quand on va soi-même mettre les mains dans le cambouis de ce qui est, j'allais dire, salopé par la pollution. Et le fait que, par exemple, des pêcheurs ou d'autres gens se mettent physiquement et personnellement à ramasser des déchets, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour un changement d'attitude et de position dans la discussion, à mon avis.
Et puis en même temps, évidemment, ça montre l'état de ces océans et de nos rivages, hein, qui sont... On se rend compte que les océans sont principalement pollués par les côtes et ces côtes évidemment rejettent des quantités de déchets
par ailleurs il y a le côté moins visible, c'est tout l'impact sur la faune marine, les tortues, les albatros, etc. et puis ce genre d'action a aussi un grand impact sur le grand public, parce qu'on peut tout à fait imaginer ce que ça donne comme sujet à la télévision brésilienne quand on voit les piles d'ordures retirées par les pêcheurs de la baie de Rio. Ça me paraît bien intéressant comme exemple.
Alors, en France, hier, il y avait la première réunion de travail sur les ondes électromagnétiques qui a abordé la question polémique des antennes relais, hein, pour lesquelles les associations souhaitent évidemment un abaissement drastique des seuils d'exposition contre l'avis des exploitants qui, eux, invoquent le manque de données scientifiques sur la question. Vous suivez tout ce débat sur les ondes électromagnétiques et leur impact, enfin, avec l'usage justement du portable, de tous ces appareils.
J'angoisse un peu quand j'utilise mon portable. Mais je ne suis pas du tout techniquement le dossier des ondes. En revanche, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de voir des formes d'organisation ou des processus qu'on retrouve d'un dossier d'environnement à l'autre. Et si vous voulez, que ce soit le tabac, l'amiante, etc., le fait qu'une industrie nous dise non, il n'y a pas d'impact sur la santé, pour moi, c'est une non-information. Et par ailleurs, l'idée que tant qu'on n'a pas prouvé que quelqu'un n'a pas prouvé qu'il était vraiment une victime, on pouvait faire n'importe quoi, quoi qu'il pense de ce qu'on lui fait, moi j'ai du mal à adhérer à cette idée. Donc moi je comprends effectivement ce conflit et son acuité. Donc c'est vrai que l'incertitude est importante dans ce conflit-là, mais l'incertitude ne peut pas servir de base pour dire on ne fait rien, quoi.
Mais oui, et puis en plus on invoque maintenant de plus en plus le principe de précaution, qui là en l'occurrence est peut-être... Un principe
qui, un bon outil, parce que quand on voit qu'il y a plein d'antennes relais sur les écoles...
Une véritable réponse par rapport à quelque chose sur lequel on a quand même pas mal d'informations qui ont l'air de montrer qu'il se passe quelque chose, même si tout n'est pas encore démontré.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le principe de précaution, il consiste à déplacer un petit peu la charge de la preuve et à dire, celui qui est victime de quelque chose, même s'il n'y a pas de preuve absolue, il a déjà une forme de droit à ce qu'on prenne en compte le danger putatif qu'on lui fait courir.
Jaane ja jaane man ye sana ye bahar dil fida jaane sa
तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरे डाल कड़े हैं। तेरा जलवा, तेरा जलवा, जलवा है, तेरा जलवा, 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 तेरा जलवा, जलवा।
C'est pas dimanche sur RFI et tout de suite on s'intéresse à l'actualité environnementale d'un continent et aujourd'hui on s'intéresse à l'Asie.
Bonjour Nicolas Vescovacci.
Bonjour.
Alors, nous partons d'abord pour l'Australie. Là-bas, le Premier ministre a annoncé en début de semaine que son gouvernement retarderait la mise en place des mesures nationales pour la réduction des gaz à effet de serre.
Oui, vous savez que si on ramène la pollution au nombre d'habitants, les Australiens sont les plus grands pollueurs de la planète, notamment à cause de leur fameuse usine à charbon. Alors, depuis peu, le gouvernement est dit prêt à être en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais il semble que la crise soit passer par là, et quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, malheureusement, j'ai bien peur que les bons plans écolos tombent à l'eau. Et pourtant, lorsque le travailliste Kevin Rudd arrive au pouvoir fin 2007, il tranche radicalement avec son prédécesseur en ratifiant illico le protocole de Kyoto, ça rime. Quelques mois plus tard, son gouvernement crée un système de droits d'émission de gaz à effet de serre, un système qui devait consister dès 2010 à attribuer, c'est un petit peu compliqué, mais à attribuer aux industries polluantes des quotas de CO2 et leur permettre d'acheter sur un marché financier des permis d'émission à des entreprises qui polluent moins. Alors l'objectif, c'est de réduire de 5 à 15% l'émission de gaz à effet de serre dans les 3 ans. Patatras, la crise survient, Kevin Rudd doit faire marche arrière, le Premier ministre australien reporte d'un an ses mesures et se justifie lundi dernier devant les médias australiens.
Je suis un pragmatique et je dois répondre à de nouveaux défis de manière réaliste. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ce n'est pas un choix facile, c'est une décision difficile, c'est compliqué, surtout en période de crise économique, mais la crise ne doit pas nous empêcher d'avancer. C'est vrai, nous allons commencer plus tard que prévu à réduire les gaz à effet de serre, mais nous sommes déterminés à tenir notre pari. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons de manière intelligente et flexible pour aider les industriels dans ces moments difficiles. Dans le même temps, nous avons l'ambition de réduire un peu plus tard les gaz à effet de serre. L'objectif, c'est d'obtenir des résultats positifs à la conférence de Copenhague.
Copenhague, on vous en parle tous les jours dans cette émission, je crois. C'est la grande conférence sur le climat qui aura lieu en décembre prochain et qui doit préparer l'après-Kyoto.
Oui, alors vous l'avez entendu, hein, pour calmer les organisations écolo qui crient au scandale, le Premier ministre australien promet de tenir ses engagements et même d'aller un peu plus loin, ce qui veut dire réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Enfin, si les autres, dit-il, hein, si les autres dirigeants internationaux s'accordent à Copenhague sur des réductions ambitieuses.
Et puis alors maintenant, on part au Japon où la crise touche tous les animaux de compagnie.
Oui, tous les animaux, vraiment tous, puisqu'un grand quotidien japonais nous apprend qu'un crocodile du Siam d'1,50 m de long a été abandonné dimanche dernier devant un laboratoire de recherche sur les animaux. Le croco a été retrouvé dans un sac complètement hébété et dans le sac, il y avait une note du propriétaire sur laquelle on pouvait lire « J'ai perdu mon travail, je ne peux plus nourrir Joe. Joe, c'est le nom de ce croco. » La crise, toujours la crise, ou plutôt la peur de la grippe porcine cette fois, qui a poussé le directeur du zoo de Kaboul à mettre en quarantaine le seul cochon connu d'Afghanistan. Ce cochon avait été offert en 2002 par la Chine, qui voulait ainsi contribuer à la reconstruction du zoo. C'est sa copine, la chèvre, qui doit être mécontente. Oui, parce que la chèvre du zoo était la seule amie du cochon. Oui, parce qu'un cochon dans un pays musulman, ça fait bizarre dans le décor. Alors voilà, un gentil petit pote. corps, même pas malade, qui fait les frais d'une psychose planétaire. Figurez-vous qu'aucun cas confirmé de grippe porcine n'a été signalé pour l'instant en Afghanistan.
Vous avez la fibre animale aujourd'hui, Nicolas.
Un petit peu, j'aime bien les animaux.
Merci, Nicolas.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Laurent Mermet, alors une réaction à cette revue d'information environnementale sur l'Asie.
Ben le premier point, c'est le lien entre Joe le croco et l'information sur l'Australie. Un des thèmes de réflexion sur l'environnement, c'est la connexion qui a été constatée entre les périodes de croissance et de prospérité économique et l'avancée des dossiers environnementaux. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est quand l'économie va bien, qu'on est très actif pour mettre en place des mesures environnementales. Et donc là, Joe le croco nous fait ça à une échelle minuscule, l'Australien nous le fait à une échelle plus grande, mais c'est vrai qu'on est devant la question, est-ce que la crise va retarder encore l'échéance du passage à l'action, ou bien est-ce qu'on va vraiment arriver à changer de logiciel et à dire, mais non, il faut surmonter la crise avec des moyens qui peuvent fonctionner pour l'environnement.
Ben, quand on étudie les propos du G20, par exemple, il n'y a pas beaucoup de traces d'environnement.
Non. Et l'autre propos qui fait réagir, c'est la petite clause australienne. Bien sûr, nous prendrons des mesures ambitieuses si toutefois les autres font de même, quand on sait que les autres ont dit exactement la même chose. On est quand même dans un système où on se tient par la barbichette. Et alors quand on est à 150 ou 200 pays à se tenir par la barbichette, et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des poignes très énergiques et des barbichettes avec des poils très faciles à arracher.
Et les Australiens disent aussi qu'ils vont retarder leur effort à cause évidemment de la crise financière. La crise économique.
Oui, on le comprend bien. Alors, ceci dit, les dossiers sont jamais simples. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la crise économique, elle va pas accélérer les émissions non plus. C'est-à-dire que les périodes de forte croissance économique, elles sont favorables au passage à l'acte environnemental, à la fois parce qu'il y a plus de finances pour le faire, mais aussi parce que la pollution augmente plus vite à cause de la croissance.
Alors, pour revenir, alors malheureusement, ça va être très court parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, mais donc, dans votre livre Environnement, décider autrement, vous êtes intéressé à la concertation dans le domaine de l'environnement. Pourquoi cet angle de recherche ?
Ben parce que, en gros, depuis le début des années 90, c'est-à-dire un peu moins de 20 ans, les manières de prendre les décisions publiques en matière d'aménagement, d'environnement, ont été transformées complètement avec la généralisation de la concertation. En 91, ça a été introduit comme des expériences pilotes de concertation, et aujourd'hui, c'est la norme. Il n'y a plus un seul projet, que ce soit à l'échelle d'un village, d'une région, à l'échelle nationale ou même internationale, qui se réalise sans de la concertation. D'où l'importance de comprendre comment fonctionnent ces nouveaux modes de décision.
Merci Laurent Mermet de vous être prêté à ce jeu de l'information. Je rappelle qu'on peut vous lire dans l'ouvrage Environnement, décider autrement, coécrit avec Martine Berland-Arquet, paru cette année à l'Armatan.
C'est pas du vent, revient juste après un rappel de l'actualité pour parler d'une nouvelle source d'énergie prometteuse, le charbon vert. A tout de suite.